Voici une question dont nous avons tous besoin d'une réponse claire. Y a-t-il beaucoup de gens qui sont aveugles spirituellement? La parole de Dieu va ouvrir les yeux de tous ceux qui le veulent réellement aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Aujourd'hui, on va apprendre ce que c'est d'être aveugle aux yeux de Dieu et comment on peut parvenir à sa lumière. Voici les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures. Y a-t-il un message spirituel à comprendre dans le récit de l'aveugle-né que Jésus a guéri? Est-ce que c'est le Seigneur qui vient vers l'homme pour le sauver ou l'homme qui va vers Dieu pour être sauvé? De qui pouvons-nous le mieux apprendre à présenter l'Évangile aux gens? Comment pouvons-nous savoir si nous sommes aveugles spirituellement? Qu'est-ce qui arrive à une personne qui repousse Jésus qui est la lumière? Le Seigneur va répondre à toutes nos questions par sa parole. Il va se servir de la bouche du pasteur Régent Joly pour le faire. Demandons à Dieu d'ouvrir les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse voir sa lumière. Prions. Oui, Seigneur, on a besoin de voir ta lumière. On a besoin de voir tes Écritures à la lumière de ce que tu es, toi qui es la lumière. Instruis-nous, Seigneur, on a besoin de mieux te connaître. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, le Seigneur Jésus a guéri un aveugle-né. Le miracle a tellement étonné les gens qu'on a conduit l'homme aux pharisiens afin de voir ce qu'ils en pensaient. Nous avons vu que les Juifs ne se sont pas réjouis en voyant ce miracle et qu'ils ne désirent pas que Jésus, qu'ils considèrent pécheur, en reçoive le crédit. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile de Jean chapitre 9, verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Les raisonnements des pharisiens ne leur furent d'aucun secours. Ils sont devant un homme qu'ils considèrent pécheur et qui fait cependant des miracles. Il demande donc à l'aveugle-né de modifier son témoignage afin qu'il s'harmonise avec leur mauvaise interprétation des faits, leur mauvaise théologie. Il demande à l'homme guéri de donner gloire à Dieu. Cela semble si pieux, mais malheureusement, il rejette le Fils de Dieu. Verset 25. Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais, je sais une chose. » C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. C'est la deuxième fois que l'aveugle-né comparaît devant eux, et cela commence à l'agacer. Cependant, son témoignage est merveilleux. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Nous avons ici le témoignage de toute personne qui est sauvée. J'étais aveugle, maintenant je vois. Autrefois j'étais dans les ténèbres spirituelles. Maintenant je suis venu à la lumière. Je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Maintenant il est mon sauveur. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais parfois je me méfie des témoignages interminables. Je crains que certaines personnes en rajoutent et embellissent leurs témoignages. Parfois, l'emphase est tellement mise sur l'ancienne vie que la personne semble avoir commis un exploit héroïque en se repentant. Elles décrivent leur passé et insistent sur le fait qu'elles étaient les pires des alcooliques ou les pires des joueurs compulsifs. Les gens qui entendent ces témoignages appellent ensuite leurs amis, mais malheureusement, elles décrivent beaucoup plus la vie de péché de la personne qu'elles ont entendue, qu'elles ne parlent de ce qu'a fait le Seigneur Jésus. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, racontait qu'une fois, il participait à une campagne d'évangélisation où la parole de Dieu était annoncée et proclamée. Un petit criminel, minable, était entré dans la salle et il s'est converti en entendant la proclamation de la parole de Dieu. L'évangéliste lui demanda de donner son témoignage au cours de la campagne. Monsieur McGee, qui était présent, entendit le témoignage de cet homme. Quelques années plus tard, McGee fut invité par un ami à entendre un témoignage touchant. C'était celui de cet homme. Son ami le pressa et il accepta. Le petit criminel minable se présentait maintenant comme un ex-chef de gang qui fréquentait les hautes sphères du monde criminel. Lorsqu'il est entré dans la salle le soir de sa conversion, il fuyait des tueurs à gages. Le témoignage de l'homme s'était embelli au cours des années. McGee douta même du salut de cet homme. Mes amis, la partie la plus importante d'un témoignage est celle-ci. Autrefois j'étais aveugle, maintenant je vois. En donnant ce témoignage simple, qui s'en tient au fait, l'aveugle-né évita un débat vain et il fut donc intouchable. Il n'y avait rien à répliquer à son témoignage. Verset 26. Ils lui dirent : Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? Les pharisiens s'opposent au Seigneur Jésus et ils cherchent une faille, quelque chose à critiquer. Donc, ils demandent à l'homme de répéter son témoignage. C'est par la critique qu'ils veulent miner le ministère de Jésus. Ils auraient pu enquêter sur le Seigneur Jésus s'ils avaient voulu vraiment connaître la vérité. Mais ils cherchent plutôt comment expliquer qu'un pécheur peut faire un tel miracle. Ils ne peuvent cependant pas nier le miracle. L'homme est devant eux et il voit. Versets 27 et 28. Il leur répondit : Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? Ils l'injurièrent et dirent : C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. L'aveugle-né voit le jeu des chefs religieux. Sa réponse est ironique et sarcastique alors qu'il leur demande s'ils veulent aussi devenir les disciples du Seigneur Jésus. L'aveugle-né touche aussi un autre point intéressant en leur reprochant de ne pas avoir écouté lorsqu'il a donné son témoignage la première fois. Non seulement est-ce que les pharisiens ne peuvent voir la lumière du monde, mais ils n'ont pas les oreilles pour entendre. L'homme s'enhardit devant l'impuissance des pharisiens. Ceux-ci sont embêtés. Un homme pécheur fait un miracle le jour du sabbat, mais seul un envoyé de Dieu peut faire un tel miracle. L'homme guéri perçoit l'embarras des chefs religieux. Versets 29 à 34. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit : Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent : Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Tenir ferme pour la vérité nous fait grandir. Les pharisiens adressent des reproches à l'aveugle-né. Notez que lorsque les orgueilleux sont à court d'arguments valables, ils utilisent le mépris pour se défendre. Cependant, ils ont amené l'homme guéri par Jésus à réfléchir. Puis, ils s'entêtent à lui faire dire que Jésus est un pécheur et à lui demander de donner la gloire à Dieu. Plus il se rend compte que le Seigneur Jésus est envoyé par Dieu. Puisque sa guérison ne fait aucun doute, l'homme vient de Dieu. En fait, l'aveugle guéri par Jésus s'étonne de l'incrédulité des pharisiens. L'aveugle-né s'enhardit de plus en plus et il enseigne maintenant les pharisiens. De plus, il défend le bienfaiteur qui l'a guéri. Dans cette scène, nous sommes témoins du premier acte de rupture entre ce qui deviendra l'Église et les synagogues. Les pharisiens s'enragent devant un argument auquel ils ne peuvent pas répliquer. L'aveugle-né prend de l'assurance dans sa foi et dans son témoignage. Versets 35 à 38. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et, l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. C'est le Seigneur qui vient vers nous. Oui, le Seigneur revient en scène. L'aveugle-né a défendu le Seigneur Jésus et il est sorti vainqueur de la discussion, mais les chefs religieux l'ont excommunié en le chassant de la synagogue. Maintenant, le Seigneur Jésus vient vers l'homme. Mes amis, c'est toujours le Seigneur Jésus qui vient à notre recherche. Il est vrai qu'une personne doit placer sa foi en Jésus-Christ. Jésus vient donc vers l'homme et lui pose la question la plus importante. Crois-tu au Fils de Dieu? L'expérience que l'aveugle-né vient de vivre a renforcé sa foi et clarifié sa façon de penser. C'est un fruit mûr pour la conversion. Cet homme est ouvert, honnête et sincère. Il demande qui est le Fils de Dieu afin de croire en lui. Nous voyons que cet homme désire connaître le Fils de Dieu. Le Seigneur se fait connaître à lui. Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. L'homme crut Jésus et l'adora. C'est une des plus belles démonstrations de foi que nous trouvons dans la Bible. Le Seigneur est venu vers cet homme, et un pas à la fois, il l'a emmené à ses pieds, où il a affirmé sa foi et adoré son Dieu. Jésus nous donne un modèle pour témoigner. Notez la technique de Jésus. Il commence par susciter chez l'homme un désir d'en connaître davantage au sujet du Messie. L'homme est dans un état où il est enseignable. Lorsque nous le cherchons, le Seigneur Jésus est plus près de notre âme que nous le pensons. Tous les pécheurs passent par un processus semblable. D'abord, nous sommes aveugles, nous sommes des pécheurs perdus, et nous ne nous en rendons pas compte. Ensuite, nous venons au Seigneur Jésus, et il se révèle à nous. Nos yeux s'ouvrent, et nous voyons qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Maintenant la question est, croyez-vous au Seigneur Jésus? Votre réponse peut être la même que cet homme. Vous adorerez le Seigneur Jésus. Verset 39. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » C'est Jésus qui ouvre les yeux par son esprit. Voilà un énoncé qui semble étrange. Le Seigneur Jésus affirme que des personnes ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des yeux pour voir ce qui les entoure, mais ils sont aveugles spirituellement. Si une personne reconnaît qu'elle est aveugle et qu'elle vient au Seigneur dans cet état, Jésus lui donne une vision spirituelle. Paul a écrit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mes amis, si vous êtes venus dans la présence du Seigneur, qui est la lumière du monde, que l'on vous a parlé de lui et que vous dites « Qu'est-ce que la vérité ?» ou encore « Je ne vois pas qu'il doit être mon sauveur » ou « Je ne comprends rien à cela. » Alors, vous êtes encore aveugle spirituellement. Les pharisiens avaient une excellente vue. Cependant, même s'ils étaient très religieux et très zélés pour leur croyance, ils étaient aveugles. Les païens sont perdus, ils sont dans les ténèbres. Cependant, le Seigneur fait passer chaque homme à travers une série d'étapes. S'il y a une personne dans un pays où l'Évangile et le christianisme ne sont pas enseignés et que cette personne veut connaître Dieu, le Seigneur Jésus va diriger quelqu'un vers elle. L'homme qui est assis sur un banc d'église et qui entend la prédication de la parole est exposé à la lumière. Cette lumière révèle son aveuglement. Jésus a dit, « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ?» Matthieu chapitre 6, verset 23. Si vous connaissez les faits au sujet de la personne de Jésus-Christ et que vous refusez d'y croire, alors vous êtes aveugle spirituellement, et nous n'avons rien d'autre à vous offrir. Si vous êtes venu en présence du Sauveur du monde et que vous l'avez rejeté, je crains qu'il n'y ait pas d'autre Sauveur. Il est le seul et unique Sauveur du monde. Versets 40 et 41. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, « Nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Ceux qui repoussent la lumière sont aveuglés par celle-ci. Oui, ceux qui repoussent la lumière sont aveuglés par celle-ci. Ceux qui pensent voir sont ceux qui ont une connaissance fournie par l'approfondissement de la loi. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont aveugles. Ceux qui se savent aveugles n'ont pas à se défendre. Ils acceptent facilement qu'on leur enseigne la vérité et ils la reçoivent de bon cœur. Les aveugles, par contre, ne veulent pas sacrifier leur propre savoir. Leur idole, c'est d'être admiré par leur intellect, leur érudition, leur titre et leur position dans l'Église. Ils rejettent toute révélation qui menace leur sécurité. Par de faux raisonnements, ils cherchent à anéantir les faits divins. Nous avons débuté ce récit avec un aveugle né qui a reçu la vue physique ainsi que la vue spirituelle. Nous le terminons avec des chefs religieux qui étaient profondément aveugles et qui ne s'en rendaient pas compte. En présence du Seigneur Jésus, en présence de la lumière du monde, en présence de la révélation de Dieu, ils ont affirmé ne pas avoir de péché. Les athées et les membres de sectes comptent dans leur rang les personnes les plus dogmatiques. Ils affirment voir alors qu'ils sont aveugles. Ils rejettent le Seigneur Jésus. Alors leur péché demeure. Même s'ils ne se déplacent pas avec une canne blanche, ils sont aveugles. Nous voyons deux grands miracles dans l'Évangile selon Jean. La guérison de cet aveugle né, ce qui n'avait jamais été fait, et la résurrection de Lazare, que nous étudierons au chapitre 11. Ces opérations sur le corps humain illustrent les opérations du Seigneur dans l'âme. Notez aussi que c'est Jésus-Christ qui est venu vers la Samaritaine, vers le paralytique de la piscine de Bethesda et vers l'aveugle né. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui nous cherche, qui fait les premiers pas vers nous. Alors, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Citation de Matthieu chapitre 23, versets 1 à 7, ainsi que les versets 13 et 14. Le Seigneur Jésus a prononcé une malédiction sur les scribes et les pharisiens. Ceux-ci étaient coupables d'abus spirituels. Ils désiraient les premières places, les applaudissements des hommes, et ils se servaient de la religion pour s'enrichir malhonnêtement. C'est pourquoi ils ont rejeté le Seigneur Jésus, qui était une menace pour eux. Il était la lumière. et cette lumière exposait leurs mauvaises actions et le véritable état de leur cœur. De même, ils ne pouvaient pas recevoir le témoignage de l'aveugle-né. Le faire aurait donné du crédit et de la crédibilité au Seigneur Jésus, et c'était la dernière chose qu'ils désiraient. Ils aimaient leur première place dans les synagogues. Ils se souciaient davantage de cela que des âmes des personnes qu'ils côtoyaient. Leur religion était plus importante qu'une relation intime et personnelle avec Dieu. Pourtant, le premier et le plus grand commandement est d'aimer Dieu. Leur religion était importante car elle leur servait de tremplin pour s'enrichir et se faire applaudir par la population. Cela était plus important que la justice et la miséricorde. Les chefs religieux méprisaient les pauvres, les malades et les infirmes. Ils enseignaient qu'ils étaient dans cet état parce qu'eux ou leurs parents étaient des pécheurs. Ils étaient disposés à traîner une femme surprise en flagrant délit d'adultère devant Jésus aux yeux de la foule. Cependant, ils avaient omis de traîner l'homme avec qui la femme était. Cet état de choses existe encore aujourd'hui. Êtes-vous dans une église où l'on est pointilleux sur la façon de prendre le repas du Seigneur, où on examine les cantiques à la loupe, afin que chaque petite tournure de phrase soit conforme à ce qu'on croit, où on vous pointe du doigt si votre tenue vestimentaire n'est pas conforme à la tenue acceptée, où quelqu'un vous reprend si vous ne faites pas les choses exactement comme la tradition l'exige dans l'Église? Les apparences et la dénomination sont plus importantes que l'état de votre âme. Vous enseigne-t-on des lois et des règles sans vous enseigner comment cultiver une relation intime et personnelle avec Dieu? Vous guide-t-on sur le chemin de la grâce afin que vous grandissiez spirituellement? Lorsque vous péchez gravement, vous accompagne-t-on dans une démarche de restauration ou est-ce que sous l'effet de la colère, on vous met en discipline? S'attend-on à ce que vous deveniez immédiatement des géants spirituels, des SS, des super spirituels? Ou vous aide-t-on à grandir? Vous présente-t-on la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ? Soyez franc et honnête. Comment vous situez-vous face à tout cela? Où en êtes-vous dans votre relation avec Dieu? Chers amis, je tiens à vous préciser que le message de la Bible en est un de relation. Jésus-Christ est venu pour nous faire connaître le Père, afin que nous puissions établir une relation intime et personnelle avec lui. Ce n'est pas une question de religion, mais une question de relation. Que Dieu puisse ouvrir vos yeux et que vous voyez la gravité du péché dans votre vie. L'obstacle premier, majeur, le péché qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Jésus est venu pour l'ôter, afin que nous puissions retrouver la vue spirituelle, chers amis. Passez de la cécité à la vue spirituelle. Que vous puissiez voir ces choses, les comprendre et les vivre pleinement. Oui, que vous puissiez recouvrer la vue spirituelle et de voir les choses comme Dieu les voit. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Jean chapitre 10, versets 1 à 10.
Merci beaucoup, Régent. Jésus a guéri l'aveugle-né. Et non seulement l'a-t-il guéri physiquement, il l'a guéri spirituellement quand il l'a rencontré de nouveau et qu'il lui a demandé s'il croyait au Fils de Dieu. Et l'aveugle a répondu en lui demandant qui était le Fils de Dieu. Ensuite, Jésus lui a dit qu'il l'avait vu et que celui qui lui parlait, c'était lui. Et l'homme qui n'était plus aveugle physiquement a dit « Je crois, Seigneur! » Et c'est là qu'il a recouvré la vue spirituellement. Puis il s'est prosterné devant Jésus. Imaginez, cet homme-là a reçu une guérison physique. Il voyait, lui qui avait été aveugle toute sa vie. Et en plus, il voyait avec son cœur tout l'amour que le Seigneur avait pour lui. Il venait de recevoir le salut de Dieu. J'essaie d'imaginer comment il se sentait. Puis, ça peut pas être aussi grand que ce que lui a vécu, c'est sûr. En peu de temps, lui qui n'avait jamais vu physiquement, voyait maintenant. Et en plus, et même je devrais dire, ce qui est encore plus important, il a reçu la lumière divine. Il a reçu Jésus comme son sauveur, comme son Seigneur, comme son maître. Maintenant, il voyait le salut de Dieu. Il venait de recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Wow! Ça me rappelle, il y a quelques années, on m'a demandé d'accompagner un aveugle du Zaïre dans une tournée qu'il faisait de quelques églises évangéliques au Québec. Son nom était Kalombo Pascal. Je devais chanter 2 ou 3 chants avant qu'il donne son témoignage de conversion. Et quand je l'ai entendu donner son témoignage pour la première fois, je suis retournée chez moi étonnée à quel point cet aveugle voyait. Il n'avait pas été guéri physiquement, bien que je sois convaincue qu'il pourrait l'être si c'était pour la gloire de Dieu. Mais il avait vu la lumière. Les yeux de son cœur avaient vu que c'était pour lui que Jésus avait été crucifié, qu'il était mort sur la croix pour payer la dette de ses péchés. Quand je suis allée au 2e endroit où il donnait son témoignage, eh bien, j'avais eu le temps de composer un chant qui parlait de lui. Je l'ai intitulé « Je vois ». J'aimerais vous lire les paroles de ce chant, si vous le voulez bien. Ça va comme ceci. Il marchait tout seul dans le noir, seul dans la nuit et sans espoir. Il avait perdu l'usage de ses yeux. Il était condamné à mendier le reste de sa vie. Des enfants de Dieu, émus de compassion, lui annoncèrent qu'en toute nation, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ recevra le salut. Oui, en Jésus, on recouvre la vue. Maintenant, Kalombo peut dire « Je suis aveugle, mais je vois. Jésus a ouvert les yeux de mon cœur. Je vois combien il m'a aimé, car c'est pour moi qu'il fut crucifié. Il est sorti de sa solitude, il peut marcher avec certitude. Il a vu le Fils de Dieu sur la croix, et bientôt dans la joie, il le verra dans la gloire éternelle. Rempli d'amour et d'espérance, il proclame la délivrance, la vie éternelle par la foi en Jésus, celui qui a souffert, vaincu l'enfer, renversé l'adversaire. Écoute Kalombo te dire, « Je suis aveugle, mais je vois. Jésus a ouvert les yeux de mon cœur. Je vois combien il m'a aimé, c'est pour moi qu'il fut crucifié. »
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine et à lundi.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.